Je conclus juste par peut-être deux remarques, mais donc, voilà, pour que peut-être même pour une discussion possible, je ne sais pas, mais bon, vous l'avez encore une fois entendu, c'est une thèse radicalement différente, par exemple, notamment ne serait-ce que par contraste de la thèse de Descola, qui nous dit qu'on est naturaliste. On n'est pas du tout naturaliste. Pour Abraham, on n'est pas naturaliste. On est animiste, parce qu'on ne peut pas ne pas l'être. Enfin, par nos corps et par notre rapport au monde et le fait que nous sommes vivants, on ne peut pas ne pas être animiste. On est animiste, comme l'ensemble du monde vivant, pris dans des relations perceptuelles. Nous ne pouvons pas être autre chose. Mais, encore une fois, on est des animistes un peu particuliers, à savoir des animistes qui s'ignorent comme animistes et des animistes autoréflexifs. Et la seconde remarque, peut-être, que je pourrais faire pour conclure... vous avez entendu aussi que je trouve très beau dans ce geste, dans cette, c'est vraiment une proposition qu'il fait comme ça. C'est finalement, encore une fois, au lieu de chercher, comme on le trouve dans toute la tradition philosophique européenne notamment, enfin, quand ils veulent bien s'intéresser à ça, mais donc au lieu de chercher des explications, on va dire rationnelles, des croyances et des pratiques animistes des autres, hein, au lieu, autrement dit, de chercher à les faire rentrer dans notre grande rationalité pour qu'ils aient un droit d'existence, de légitimité, de je ne sais pas quoi. Ici, il fait exactement l'inverse. Abraham, ici, propose une compréhension animiste de notre rationalité. Donc c'est le geste absolument inverse. Et je trouve une thèse absolument, absolument magnifique, puisque évidemment, en faisant cela, qu'est-ce qu'il propose de faire? En fait, il rompt clairement avec notre exceptionnalisme humain aussi. Pas seulement le fait de savoir un naturaliste, pas naturaliste, etc. Il rompt avec cet exceptionnalisme humain. On n'est pas à côté, en dehors, quelle que soit sous la forme de c'est notre plus grande gloire comme ça a été pendant des siècles, puis aujourd'hui notre plus grand fardeau d'être naturaliste. Non, c'est ni notre gloire ni notre fardeau. En fait, on l'est pas. C'est pas bon. Alors évidemment, la dernière chose et c'est la question bonus, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne vais pas vous y répondre, je vais pas y répondre et n'y répondrons pas non plus. La seule chose que je voudrais dire par rapport à cette question-là, c'est que, évidemment qu'il ne s'agit pas de, pour lui, enfin évidemment, en tout cas ça ne fait pas partie de sa position, la question ne se pose pas comme ça, on ne va pas rejeter l'écriture alphabétique, on ne va pas les jeter tous les livres sur un bûcher pour essayer de se réinventer animiste à la manière, d'une manière qu'on n'est plus, ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens non plus, vous l'avez entendu, parce que finalement, là, c'est précisément par l'écriture qu'il y est revenu et qu'il l'a retrouvé, donc c'est plutôt essayer de trouver, là, peut-être qu'une question qui se poserait, c'est est-ce que c'est possible d'être dans des formes dans plusieurs formes d'animisme? Est-ce que lui nous dit qu'on ne peut pas passer d'une perception à une autre? On est obligé d'être dans une relation participative avec l'un. Sauf que là, par ce genre de texte un peu magique, il nous fait voir justement, il nous sort de notre propre position. Est-ce que à partir de là, on peut être à la fois toujours dans cet animisme autoréflexif et pour autant repenser collectivement aussi des relations animistes avec le monde que à nouveau on ça nous permet de voir. Voilà, je m'arrête là.
Alors, quel rebondissement. Un micro, on ne peut pas porter. Il y a un
aussi. Bonjour, j'aurais une question. Je suis un peu d'accord avec son point de vue. Mais si on prend des enfants qui ne savent pas lire. Et si on prend des personnes adultes qui ne savent pas lire non plus, est-ce que ces personnes, en grande majorité, ont un comportement animiste?
J'en sais rien, oui et non. De toute façon, ils sont dans une culture alphabétique. Ils sont dans une culture qui se pense alphabétique. Donc oui, après, pour le coup, les enfants sont complètement animistes. Enfin, moi, je suis absolument persuadée. Je veux dire ça. On les entraîne tous les jours à plus l'être et à se moquer de leurs propres expériences et de leurs propres voilà. Mais
pour les personnes adultes,
je sais pas.
En vous écoutant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à toutes ces années de laboratoire espace cerveau consacrées à l'expérience perceptuelle. Du point de vue du fait artistique, on va dire. Et comme la vie fait bien les choses, on va enchaîner tout à l'heure par une exposition.
C'est pas la vie, c'est votre organisation.
Oui, enfin bon, tout n'est pas aussi... bref, on va dire que la vie fait aussi son travail un petit peu toute seule. Et ça nous permettra de prolonger, potentiellement, éventuellement, cette réflexion sur des pièces précises sans en faire un commentaire... absolument descriptif, mais plutôt justement celui de l'ordre de l'expérience, pour ensuite aboutir à l'œuvre de Daniel. Mais c'est vrai que l'artiste avec qui on a co-initié ce laboratoire en 2009, qui est Anne-Véronica Janssen, pour vous prendre une œuvre assez significative de son travail, c'est le principe de brouillard, par exemple. Le mot brouillard étant relatif, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une brume qui est dans un espace donné, avec assez, suffisamment dense pour ne pas voir ni ses mains ni ses pieds, et en même temps être lié comme ça à cette déambulation dans l'espace, qui évidemment provoque une absence de repère, etc., etc., mais qui au bout du compte nous ramenait toujours à nous dire toutes les deux, certainement au-delà des mots, mais pratiquement au-delà des yeux. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'ensemble qui est perception, c'est l'ensemble du corps qui est perception, qui est sens. Et ce qui, à un moment, nous a fait rebondir de nouveau aussi, alors du côté de l'animisme dit asiatique, ou du point de vue, en tous les cas, des cultures natives, et que les choses seraient emboîtées entre des expériences artistiques de ce type qui auraient pu apparaître, comme elles se sont déjà répandues au XXe siècle, autour de l'art cybernétique, de l'optical art, etc., autour des années 50, surtout de l'après-guerre d'ailleurs, et que la résurgence de ces préoccupations qui s'est produite dans l'art autour des années 2000, moi, m'a toujours questionnée en me disant, mais pourquoi ces artistes ont besoin de ça? Et maintenant, je sais pourquoi, mais bon, grâce à vous, et grâce à nos expériences.
Donc, Émilie, moi, j'ai trouvé ça très puissant comme proposition là, que tu as fait. Je regrette que Cyril Noirjon ne soit pas là, en revanche, parce que cette question du langage, je pense qu'il aurait pu nous éclairer à l'endroit du monde de nos rêves, chez moi, dans le sens lacanien, comment est-ce que ça se joue avec le langage et... un peu sous forme de rébus, on va dire, comment est-ce que le langage peut générer dans ce monde où on peut avoir tout un tas d'autres corps. Voilà.
Alors, je précise, parce que c'est vrai qu'on a une petite équipe qui se suit, et donc Cyril Noirjon, c'est notre modérateur habituel, qui est psychanalyste et directeur de centre d'art, ou on peut le prendre dans l'autre sens, et qui a l'habitude, en principe, et donc c'est Cécilia qui a pris le relais aujourd'hui. Mais bon, c'est sûr, quand en alors la psychanalyse, cela dit, dans ce laboratoire, elle n'a pas fait une entrée fracassante, hein, il faut quand même le dire. Je me permets d'être un peu modérée sur ces questions, même si j'ai le sentiment qu'en vous écoutant, on peut considérer, voilà, qu'on est plutôt dans le « et ». Aujourd'hui, on est quand même constitué de ce langage et que c'est pas, on ne va pas y renoncer. Et autre chose, après, je vous passe... C'est-à-dire qu'une fois que j'ai parlé d'Anne-Véronica Janssen, comme on a deux niveaux, on va commencer par Anne-Véronica Janssen et terminer notre parcours par Daniel Stillman-Mangrané. Et j'aimerais restituer l'expérience qui s'est produite à l'IAC à Villeurbanne de février à avril. C'est difficile avec des mots précisément, mais quand même, un moment, tu as utilisé, toi, Daniel, l'ensemble de l'espace d'exposition comme une forme de... C'est ni une déambulation ni un parcours, c'est au-delà de ça, c'est l'ensemble de l'espace repris comme œuvre de spatialisation en relation avec les éléments, dont en particulier ce qui n'était pas commun dans nos pratiques antérieures, la lumière naturelle. Mais c'est qu'un aspect de cette expérience-là, mais qui fait qu'à un moment on était englobé, sans être dans une immersion statique, précisément une immersion en mouvement. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire?
Tu n'as pas le choix, je crois.
Non, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça peut dire. Ça marche? Et pourquoi c'est une expérience vraiment physique. C'est très difficile de le colloquer en paroles. No? Et anche en avec la photographie, ne marche pas. No? Que Emilie a présenté. C'est drôle, comme pour nous, c'est un peu difficile de comprendre le langage écrit comme animiste, mais si on pense à la présentation que Stéphanie a faite sur le cinéma animiste, pour le cinéma, c'est très facile de comprendre ça. No? seulement parce que les images se mouvent. Je ne sais pas, non. C'est une forme de penser la réalité très simpliste. Non? L'animation de les images porte une animation. Non, je suis très, très intéressé avec ça que tu vous avez colloqué ici. Je pense que je vais acheter le livre. Ah, c'est complètement différent.
I wanted to ask you about a kind of paradoxical character of Abrams, a good paradox, which is sometimes maybe through literature we can access like other perspectives or access or rebuild this association with the living world. And I was thinking, I mentioned Ursula Le Guin before, and I was so surprised by her text, because that short story is exactly about this, because the poetry of penguins is not a spoken poetry, it's their feathers and how they unite, and it's a whole other thing. And have you read this short story? No? You're gonna love it. The author of the author of Acacia Seeds. And the other thing is, pour Nathalie aussi, have you read a short story by an American Chinese American author called Ted Chiang, called The Great Silence? The Great Silence is a short story, and it's also a video that he made with two artists, and it's about a parrot. Do you know it? Yeah, because you were talking about sending signs to space, and the parrot says, humans want to contact another species, but we are right here. Why don't they talk to us? But that's it. Thank you so much. It was very inspiring.
Le temps, bon, c'est vrai qu'il y a une navette à 18h15, on a l'air un peu... Mais de toute façon, on nous attendra, et on rentrera à Paris, on n'est pas perdu dans la jungle, tout va bien.
C'est pas simplement...
C'est des esprits. Qui fait des trucs comme ça.
C'est des esprits.
Donc je tenais à nous rassurer. C'est vrai qu'on a envie d'avoir un petit peu de temps dans l'espace d'exposition, mais c'est important d'être là. Voilà, donc Rama.
Merci. En fait, j'avais une ou deux petites questions sur David Abram. Et par exemple, quand il y a cette interaction entre l'objet, enfin, entre, par exemple, nous-mêmes ou vers le monde, disons, ces interactions constantes, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut dire que c'est une relation où le regardeur change ce qui est regardé un petit peu? Parce que, par exemple, quand on lit, on pourrait se dire qu'on change un petit peu les caractères, on rajoute quelque chose, je crois que comme ce qui a été dit. Et puis peut-être qu'il y a une sorte de changement réciproque. Alors je me demandais si c'était compris dans ce sens-là, une sorte de changement, d'interaction, de changement, au niveau d'un changement.
Non, je suis pas sûre de ça. Là, c'était, enfin, le point qui faisait tenait plus à la. Enfin, pour le coup, c'était un point finalement de philosophie classique, enfin, de considérer qu'il n'y a pas d'expérience, et même de penser de cette dernière qui n'est pas une double source en fait de l'expérience. Finalement, en fait, c'est quelque chose dans ce sens-là relativement classique. Simplement, il le fait à partir d'une tradition phénoménologique, et il insiste sur la question du corps et du corps sentant. Je pense, mais après. Sur la question du changement en tant que tel, je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
D'accord, non, parce que maintenant, on a pas mal de philosophes qui pensent qu'on peut changer, que nous, on change ce qu'on voit.
L'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, c'est ce sur quoi il s'appuyait, ce n'était pas sur ce point.
Cela dit, Rama, c'est vrai qu'avec la station 16, on tend déjà vers la transformation, voire la métamorphose. Dans tous les cas, ici, c'était le comment du changement. Mais je pense qu'à un moment, on active tout. Enfin, je dirais que la boîte à outils est ouverte. Ça nous permet, en tous les cas, de l'ouvrir plus sereinement et enfin, plus activement. C'est comme ça que moi je le ressens.
Ouais. C'est exactement comme ça que je le lis aussi. Ouais. Absolument. Parce que c'est, enfin, il répond pas à l'action, il ouvre une porte en fait.
C'est ça.
Donc après, il y a tout à explorer. C'est vraiment une porte qui est ouverte, je pense. Enfin, d'un point de vue aussi bien ontologique que philosophique et épistémologique.
Allez, merci. Merci à tous. Remerciez-vous vous-même, hein, déjà. C'est bien parce que... Bravo, hein. C'est très touchant parce que aussi, parmi nous, il y a une dizaine d'inscrits qui sont venus dans le pur volontariat, dans cette chaleur à nos côtés. Facebook Live était en marche. Hein, quand même, il y a quelques personnes à l'horizon lointain qui nous ont observés. Et merci donc de pouvoir accomplir la fin de ce parcours en allant au Château Rantilly voir l'œuvre de Daniel.